Oui, est-ce que c'est bon là? C'est bon? C'est bon? Bien, alors donc il est 9h30, donc nous commençons cette séance du Bistrot des ethnologues avec retard, et nous le déplorons puisque ces séances sont en principe retransmises en direct sur Internet, et cette fois ça n'est pas possible, donc nous regrettons ce retard au démarrage. Ceci étant, l'invité est là, c'est le principal, Sergio Dalla Bernardina, qui est professeur d'anthropologie à l'université de Brest et qui a publié en 2011 aux presses universitaires de Rennes un livre qui s'appelle « Le retour du prédateur, mise en scène du sauvage dans la société post-rurale », livre pour lequel le Bistrot des ethnologues a souhaité l'inviter. Sergio Dalla Bernardina travaille sur l'imaginaire du sauvage en Europe. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages qui sont souvent assez décapants, voire dérangeants, parce qu'ils déconstruisent de manière très critique certains lieux communs concernant les usages que les sociétés contemporaines font de la nature. Il montre comment on voit aujourd'hui cohabiter autour de cette idée de nature des acteurs aussi diversifiés que des écologistes pacifistes, des néo-chamans ou voire des néo-nazis. Dans ce livre, Le retour du prédateur, il commence par rappeler les craintes que les sociétés traditionnelles avaient vis-à-vis d'une nature qui était souvent considérée comme menaçante. Et le constat de telles craintes dans les sociétés traditionnelles fait ressortir par contraste l'étrangeté de l'amour des modernes pour la nature qui les entoure, ou qui ne les entoure plus. Les ressources naturelles ont été longtemps exploitées et pillées avant qu'on ne se soucie de les protéger. Et ce n'est finalement qu'à partir du moment où on entre de plein pied dans la modernité que naît le sentiment d'une perte, d'un regret, qui nous amène rétrospectivement à nous intéresser à la nature. Sergio Dalla Bernardina analyse les différentes facettes de cet intérêt du monde contemporain pour la nature. Il montre ceux qui s'identifient aux prédateurs, ceux qui prônent l'ensauvagement comme étant une thérapie aidant l'homme contemporain à se désaliéner, je le cite. Cela lui permet de proposer une clé d'interprétation commune à des conduites très diversifiées, les ravers qui vont faire la fête dans les bois, les cueilleurs de champignons, les néo-païens. Tout se retrouve dans ce culte de la nature, friand d'archétypes universels. Et même le tourisme vert apparaît dans ce cadre comme un étrange paradoxe où les techniques de l'ultra-modernité, la gestion du tourisme, les outils, sont mis au service de cette idéologie de la nature. Ce livre n'hésite pas à faire appel à une dimension psychanalytique par moment et à démonter les mythes pseudo-scientifiques qui sont appelés au secours constamment pour justifier rationnellement cet amour fou de la nature. Et Sergio montre finalement comment ce qu'il appelle l'appel du sauvage mêle des raisons environnementales et économiques qui forment une idéologie que l'anthropologie a vocation à déconstruire, à objectiver, pour mieux comprendre les conduites de nos contemporains. Donc Sergio Dalla Bernardina, je vous passe tout de suite la parole pour cet exposé.
Merci beaucoup.
Merci d'être là.
Je trouve que c'est tellement bien présenté que je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Donc, c'est une synthèse remarquable. Et donc, alors je voulais dire au départ que on a annoncé que je parlerais du braconnage. C'est pas vrai. Enfin, je le ferai, mais tout juste à la fin, peut-être un petit instant. Et donc, le préalable à ce travail, il faut que je le dise, c'est que nous avons, pendant des années à Brest, fait un séminaire autour de du rapport à la nature, et j'avais sélectionné un certain nombre d'articles qui devait être publié, et justement autour de ce phénomène dont je vais parler, c'est le regain d'intérêt pour le monde sauvage. Alors, il s'avère que j'ai fait une introduction, et cette introduction était de plus en plus longue. Et donc, lorsqu'elle a atteint 80 pages, je me suis rendu compte que c'était absolument improposable. Et c'était même indécent. Et donc, j'en ai fait un petit bouquin à part. Donc, celui dont on est en train de parler, qui est celui-là, donc, enfin, je ne vais pas le montrer, mais qui s'appelle Le Retour du Prédateur, en réalité, est une introduction à le bouquin que j'ai publié plus tard, parce que sinon, on m'aurait vraiment grondé pour de vrai. Et donc, qui s'appelle Le Retour du Sauvage, et qui concerne la même problématique, si vous voulez. Mais dans le premier cas, il y a une réflexion de caractère général. Et après, on passe à l'ethnographie. Et donc, dans le deuxième cas, on voit comment les choses se passent dans la réalité concrète, avec des exemples précis. Ah, donc, le thème que je vais aborder est celui donc, du regain d'intérêt pour le monde sauvage, qui est un phénomène enfin, que tout le monde a sous les yeux. Hein. Mais d'une façon plus générale, ce dont je vais parler est quelque chose de moins visible peut-être, c'est-à-dire la disparition dans la société actuelle des catégories tout simplement de domestiques et de sauvages. Le domestique et le sauvage sont en train de disparaître de notre horizon. Et donc là, je vais me lancer dans une série de réflexions un peu sérieuse, au départ au moins, et historique. Et donc, voilà, la question de fond est la suivante. Est-ce que le partage de l'univers naturel en deux parties, le domestique d'un côté et le sauvage de l'autre, est-ce que c'est une donnée universelle? Et donc, la question est-ce que partout, c'est partout comme ça? Est-ce que c'est un invariant culturel que l'on retrouverait aussi bien chez les éleveurs alpins, par exemple, et que chez les aborigènes australiens. Donc, est-ce que partout, on pense qu'il y a le domestique d'un côté et les sauvages de l'autre? Alors, c'est une question, je n'ai pas inventé naturellement cette évidence. Et c'est Philippe Descola, célèbre anthropologue, celui qu'on ne traite pas, et qui, dans un ouvrage qui a eu un grand succès, qui s'appelle « Par-delà nature et culture », a justement abordé cette question de façon solennelle et je dirais presque définitive d'un certain point de vue. Alors, qu'est-ce qu'il fait Descola? Il montre que cette opposition du domestique et du sauvage n'est pas universelle du tout. Et donc, elle est caractéristique de certaines civilisations, notamment là où il y a l'invention de l'agriculture, naturellement. Parce que lorsqu'on est agriculteur, alors on se dit « Ah tiens, les autres, en revanche, ne le sont pas. » Et donc, on commence à poser cette opposition entre deux mondes. Hein. Et donc, en plus, ce sera une invention donc occidentale, d'un certain point de vue, et relativement limitée dans le temps. Et par exemple, pour les nomades, cette idée que l'environnement est partagé en deux catégories n'est pas une évidence, loin de là. Pour eux, le domestique et le sauvage s'entrecroisent d'un certain point de vue. Ils sont toujours chez eux et pas chez eux et ailleurs en même temps. Et c'est vrai que dans certaines sociétés, comme je pense au Peul par exemple, ils n'ont pas de terme pour exprimer ce concept de nature. Voilà, c'est quelque chose qui nous paraît d'autant plus troublant qu'on connaît les travaux de Lévi-Strauss qui nous expliquent que beaucoup de mythes nous parlent dans beaucoup de sociétés du passage de la nature à la culture. Donc, dans ce sens-là, on aurait tendance à penser que cette idée qu'il existe une nature d'un côté et la culture de l'autre est quelque chose de partagé par l'ensemble de l'humanité. Mais, et comme le dit justement Descola, pour les Achuars, par exemple, ce célèbre chasseurs-cueilleurs finalement amazoniens qui sont célèbres parce qu'ils ont cette passion pour la réduction des têtes des ennemis qu'ils mettent après hors de leur maison pour chasser les mauvais esprits, enfin je tourne ça un peu en dérision, hein, mais pour les Achuars par exemple, la forêt est tout aussi jardinée que les surfaces horticoles qui entourent les habitations des Achuars, hein. Alors, les Achuars, eux, ils jardinent la proximité de la maison, et les esprits, en revanche, eux, ils jardinent la forêt. Hein, mais c'est toujours dans une logique, justement, de domestication des espaces. Et donc, voilà, la notion de sauvage dans ces sociétés-là n'existe pas. Alors, toujours est-il que chez nous, en revanche, ça existe. Hein. Donc, dans l'histoire de notre civilisation, ce critère qui oppose ce qui a été domestiqué d'un côté et ce qui n'a pas été domestiqué de l'autre a rempli un rôle central, et ceci pendant très très longtemps. Donc, pendant des millénaires, on peut dire, hein, et à partir du moment où on a domestiqué les plantes et les animaux, on a tenté, on a fait ce qu'on pouvait pour s'éloigner de la sauvagerie, justement. Alors, et d'ailleurs, on le voit très bien chez les agriculteurs et chez les éleveurs, donc les peuples qui n'ont pas réussi ou qui n'ont pas voulu hein, à passer du stade de la chasse-cueillette au stade de l'agriculture ont toujours été considérés comme des peuples arriérés, tout proches des fauves, hein, dont ils partageaient justement les espaces et les mœurs. Donc ce n'est pas une conception savante, philosophique. Vous allez à la campagne, je ne sais pas, je pense à mes exemples corses par exemple, il y a les gens qui vivent trop près de la nature, qui sont considérés comme des arriérés, tout simplement. Donc il y a une forme d'évolutionnisme, si vous voulez, qui n'est pas seulement une théorie anthropologique, mais c'est vraiment une conception de l'homme courant, si vous voulez. Hein. Et donc, mais alors, tout au long de l'histoire de l'Occident, il y a des représentations qui perdurent, hein. Et donc, le monde sauvage a été pensé comme une sorte de ailleurs, hein, et même comme un avant, hein, un point de départ dont il fallait prendre justement ses distances. Et là, donc, j'évoque un certain nombre d'exemples classiques, si vous voulez. Si on prend les anciens Grecs, par exemple, voilà. Il faut savoir qu'on sait plutôt que tout le système de valeurs de la Grèce ancienne portait sur la valorisation des espaces qui avaient été arrachés à la nature envahissante. Donc, il suffit de voir ça dans les mythes. Hein. Les mythes grecs nous parlent justement des risques qui sont encourus par tout individu, le risque de rester du côté de la sauvagerie, et donc du côté du monde de la forêt, de la prédation, de la femme, de l'enfance, parce que tout est relié dans ce système d'opposition. L'immaturité. Et donc, il y a des figures mythiques, comme par exemple la figure d'Atalante. Hein. Alors, Atalante est nourrie du lait d'une ours et élevée par des chasseurs. Et c'est l'emblème même de la chasteté. Vous savez, c'est cette femme, cette héroïne grecque, qui est célèbre par sa souplesse et sa vitesse. Et elle est plus rapide que tous les garçons. Et donc, à un moment donné, on lui demande, Déméter est jalouse, elle veut qu'elle se marie. Et donc, elle invente une ruse, elle dit, bon, d'accord, je vais me marier, mais avec qui? Avec celui qui sera plus rapide que moi à la course. Et elle sait que de toute façon, elle va gagner. Donc, mais il s'avère qu'il y a Hippoménès qui participe à cette course et qui est encore plus rusé, peut-être encore plus féminin, si vous voulez, qu'Atalante. Pendant la course, il laisse tomber une pomme. Et Atalante, qui était déjà en train de gagner, s'arrête pour prendre la pomme. La curiosité féminine, si vous voulez. Enfin, je parle des stéréotypes, naturellement. Et donc, voilà, elle perd. Elle est obligée de se marier avec ce type Hippoménès. Et donc, voilà, il y a quand même, ce sont des personnages qui restent des personnages liés au monde de la forêt. Et donc, ils ont même des accouplements, mais sauvages, quoi. Et en plus, où est-ce qu'ils s'accouplent? Le comble, dans un temple. Et c'est le temple de qui? Et c'est le temple, justement, de Cérès. Donc, ils sont punis. Ils sont punis et vont devenir des lions. Donc, ce sont des personnages, si vous voulez, qui indiquent, dans leur proximité avec l'état de nature, leur incapacité d'évoluer pour devenir des adultes qui vont se reproduire normalement. Hein. Mais il y a un autre personnage analogue, d'ailleurs c'est Hippoménès lui-même, qui dans le corps de Lysistrata est décrit comme ça. Hein. C'est un autre jeune homme qui refuse le mariage, refuse le rapport avec la société civile, et donc reste cantonné du côté, je le répète, de l'enfance, de la nature, etc.
Et donc voilà, le texte tel qu'il est repris par Vidal Naquet, il est une histoire que je veux vous conter et que j'ai entendue moi-même étant enfant. Il y avait comme cela un jeune homme, un certain Mélanion, qui, fuyant le mariage, s'enfuit en un désert. Il habitait dans les montagnes et chassait le lièvre avec des filets qu'il avait tressés lui-même, tressés comme une femme. Hein, vous voyez, ce sont des techniques féminines. Et jamais plus il ne revint chez lui, tant il avait les femmes en horreur. Et donc, alors, l'idée, j'emprunte ça à Pierre Vidal-Naquet, qui a fait un très beau bouquin qui s'appelle justement « Le chasseur noir ». L'idée fondamentale est que ces personnages sont des personnages inachevés, des personnages qui restent du côté des... Si vous voulez, ce sont des gens qui sont là pour, dans la forêt pour être initiés, pour changer de statut, mais qui n'arrivent pas à passer de l'autre côté, donc qui restent cantonnés à jamais du côté de la nature et de la sauvagerie. Alors, il y a des héros grecs qui, eux, en revanche, sont même les inventeurs de la civilisation. Ils inventent, par exemple, les techniques pour faire pousser la vigne, etc. Mais on voit très bien que, puisque dans leur passé, ils étaient des chasseurs-cueilleurs, ils sont repris par leur destin. Et donc, il y a, par exemple, un sanglier qui arrive et qui tue l'inventeur de la vigne, etc. Donc, il y a cette idée de ce passage d'un stade à l'autre qui est dramatisé par le mythe. Et cette image, on la retrouve aussi, cette dévalorisation du monde de la chasse-cueillette par rapport au monde de l'agriculture, on le retrouve aussi, naturellement, dans les textes, dans les anciens textes bibliques. Hein. Donc, les Hébreux aussi, dans leur mythe, pour ainsi les appeler, si vous voulez, marquent la dévalorisation de la chasse-cueillette et la valorisation du monde agricole. Et je ne sais pas si vous connaissez tous, lorsque je pose la question aux étudiants, je m'aperçois que tout ce qu'on apprenait lorsque l'on était tout petit, et ça s'est passé à la trappe, peut-être heureusement, je ne suis pas du genre, mais je veux dire, toutes ces histoires de mythes qu'on enseignait de la religion chrétienne ne sont plus à la mode, donc moi j'en parle comme si c'était normal. Alors que ce n'est pas normal du tout. Et donc, c'est l'histoire, par exemple, d'Ésaü et de Jacob. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais... Donc, Ésaü et Jacob sont deux frères. Et donc, Ésaü, naturellement, est celui qui a renoncé à son droit d'aînesse pour une assiette de lentilles. Alors, je vous cite le texte biblique. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis très fatigué. » Il revient de la chasse et son frère Jacob est en train de mijoter quelque chose d'excellent, de succulent à la maison. Enfin, caricature encore une fois. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le lui jura. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Donc voilà, ça paraît un truc de rien du tout, et c'est une tragédie terrible pour l'histoire de l'humanité, si vous voulez, d'un certain point de vue, dans le sens que, voilà, dans ce récit biblique, on voit apparaître un couple exemplaire, paradigmatique. Hein. D'un côté, on voit un chasseur, mais on pourrait dire l'archétype de l'homme sauvage, hein, sorti du ventre de sa mère, entièrement roux, comme un manteau de poil. Hein. Je prends le texte biblique, là. D'ailleurs, il s'appelle le velu. Hein. Il est tout poilu. Quoi. Et il revient d'un fiasco cynégétique. Il est mort de faim. De l'autre côté, il y a son frère qui est, lui, en revanche, un agriculteur. Hein. Donc, un homme tranquille, qui aime rester sous les tentes, hein, dans les textes, et qui est en train donc de faire mijoter les végétaux domestiques qu'il a cultivés. Donc, alors, si vous voulez, il y a une morale anthropologique dans cette histoire, hein, dans cet épisode, donc on voit apparaître le caractère inactuel, révolu, et de ce mode de production, hein, comme on dit en anthropologie, c'est un peu emphatique, ce mode de production basé sur la prédation, sur l'exploitation des ressources sauvages. C'est fini avec ça, on ne peut plus continuer comme ça. Alors, il faut savoir, pour continuer avec ces exemples, après je finis avec le monde ancien parce que ce n'est pas ma spécialité, Et le monde latin aussi, on le sait, privilégiait donc l'espace bien domestiqué, hein, de la campagne. Bon, vous savez que les Romains aimaient bien la campagne, oui, mais ils aimaient la villégiature, quoi. Ils aimaient la villa romaine, bien propre, avec des jardins à l'italienne, pour ainsi dire, ou à la française. Et donc, et n'éprouvaient aucune fascination pour les forêts impénétrables et pour les créatures qui les peuplaient. Et donc ça, c'est peut-être en opposition, justement, avec les civilisations nordiques. On viendra sur ça un peu plus tard. Donc, et d'ailleurs, chez les Romains, cette irruption du sauvage au sein de la cité était perçu non seulement comme une menace, mais aussi comme une source de contamination, de pollution morale, qu'il fallait laver et exorciser par des rituels appropriés. Et là, je vais vous lire un passage d'un historien qui s'appelle Trinquier. Et il dit, en délaissant l'espace qui lui est propre pour s'introduire dans la ville, le loup sort de sa catégorie d'hôte des bois et du saltus. Ce faisant, il conjoint ceux qui devaient rester séparés et confond des catégories mutuellement exclusives. L'entrée d'un loup dans une ville constitue donc bien un prodige, donc il faut l'interpréter, ce n'est pas un bon signe, dans la mesure où elle affecte l'ordre des choses et du monde qui se donne à lire dans la division et la hiérarchisation de l'espace. Donc, c'était important de garder cette distance entre le domestique et le sauvage. Le loup qui se permet de rentrer ouvre une brèche dans cet ordre symbolique qui peut donner lieu à quelque chose de catastrophique. Hein. Alors, après, je fais des bonds très rapides. Donc, parlons un instant, encore un instant de l'Église. Hein. On sait que l'Église aussi va encore plus loin, d'ailleurs, dans cette dévalorisation des espaces sauvages. Aujourd'hui, et ce n'est pas notre ami Laurent qui dira le contraire, parce que c'est vraiment, ce sont des phénomènes patents d'invention de la tradition, mais c'est vrai que l'Église aujourd'hui s'est retrouvée, je suis désolé de le dire, une vocation pour l'écologie, pour les animaux et les plantes, qui est quelque chose que tout historien aurait envie de remettre en cause. Hein. On a beau montrer Saint François comme une sorte d'alibi, de personnage qui aimait les animaux, toute l'histoire de l'Église montre ce désir de prendre ses distances vis-à-vis, je ne dirais pas de l'animalité en général, mais d'un certain nombre d'animaux, de toute façon en particulier. Quoi qu'il en soit, l'Église, valorisait et, en revanche une chasse qu'il appelait la venatica utilis et honesta, c'est-à-dire tant que c'est pour chasser, repousser les animaux sauvages et s'en nourrir, pourquoi pas finalement. Hein. Mais elle avait en horreur toutes ces chasses qui étaient liées à sortes d'engouement, de passion pour le sauvage qui était considéré comme une tendance qui pouvait amener le bon fidèle vers des formes de zoolatrie, d'idolâtrie, etc., de paganisme, quoi, finalement. Et au nom du paganisme, comme le disent un certain nombre d'historiens du Moyen-Âge, on a aussi déforesté certains espaces, justement, parce que c'est là, dans ces forêts, que se cachait, justement, le lieu idéal pour ces rituels peu catholique, voilà, disons. Donc tout ceci pour rappeler à quel point, pendant des millénaires, l'histoire de l'Occident et de ce que le sociologue Norbert Elias appelait le processus de civilisation a coïncidé avec cette prise de distance vis-à-vis de la nature sauvage. Voilà, on a vu tous les ancêtres, si vous voulez, aller dans cette même direction. Mais voilà que tout récemment, on vient de le dire justement, le sauvage a changé de statut. Donc, et d'ailleurs, il a changé de nom aussi. Hein. On ne parle plus de désert aujourd'hui, on ne parle plus de ronce, de nuisible, de sale bête méchante. On parle de wilderness, voilà, c'est ça, tout a changé. Donc on réhabilite tout ce qui autrefois était considéré comme méprisable, ou craint. Hein. Donc les loups, les marécages, les chauves-souris, les orties, tout ceci est réhabilité. C'est le triomphe de ce que dans le passé on qualifiait de vermine, hein, Et voilà, vermin is beautiful aujourd'hui, si vous voulez. Voilà. On peut s'attendre à une sorte de vermin pride à un moment donné, dans lequel il y aura. Là, je trouve ça en caricature, mais c'est pour montrer justement, ça nous paraît tellement évident. Et pourtant, c'est une révolution qui s'est passée en quelques décennies, tout simplement. Hein. Et donc, cette réhabilitation du sauvage va de pair, bien sûr, avec des transformations environnementales qui sont dues en bonne partie à des raisons qu'on connaît, c'est-à-dire la déprise agricole, l'exode rural et toutes les conséquences anthropologiques. Hein. Parce qu'il y a encore 20 ans, et là je parle d'exemples italiens, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais dans la région alpine, par exemple les Préalpes de Vénétie ou le Frioul, hein, il suffisait de sortir des centres habités et de parcourir n'importe quelle route de montagne pour profiter à chaque tournant d'une vue imprenable sur la vallée. C'était beau, on voyait tout. Aujourd'hui, pour voir quelque chose, il faut monter à 1300, 1400 mètres. Le paysage rural a été remplacé par une couche de forêt monochrome, anonyme, mais écologiquement irréprochable. D'ailleurs, si vous voyez les tableaux, j'y pense comme ça, de Cézanne, lorsqu'il nous montre la Cinq Victoires, pourquoi est-ce qu'il peut faire ces tableaux polychromes avec tous ces carrés de couleurs différentes? Parce que c'était bien sûr dans son style, mais c'est aussi parce qu'il y avait ça à l'époque. Il y avait des champs avec de la lavande, tout ce que vous pouvez mettre. Et il n'y avait pas comme maintenant ce pain qui d'ailleurs brûle tous les 15 ans. Mais c'est pour dire à quel point justement ce monde a changé. Et donc, voilà. Alors, dans l'imaginaire urbain, ce retour de la forêt a quelque chose de mythique. C'est le retour de la forêt originaire, avec toutes ses composantes mythiques. C'est un peu la forêt de Blanche-Neige, si vous voulez, ou la forêt de Brocéliande. Il y a toute une série de référents mythiques. La selva oscura de Dante Alighieri, hein, et celle qui ouvrait les portes de l'enfer. Hein. Ce sont des forêts gothiques, comme ça. Et avec la forêt, naturellement, reviennent les prédateurs. Voilà. Et, alors, ce sont ces mêmes prédateurs que, dans les sociétés traditionnelles, on était fiers d'avoir éliminés. Et là, ils reviennent. Et donc, je rappelle, c'est une chose... Bon, on est tous contents, c'est très bien et tout ça, mais c'est quand même quelque chose d'étonnant. On a passé des millénaires pour se débarrasser de ces animaux-là, et maintenant, tout à coup, on dit, finalement, ils sont revenus. Bon. Alors, on pourrait résumer ce changement de perspective dans les termes suivants. Dans le passé, lorsque nous dépendions de la nature, nos représentations du monde sauvage étaient finalement plus homogènes. Et la nature, qu'est-ce que c'était? C'était un univers hostile et c'était un lieu qui attendait tout simplement à être domestique. Et aujourd'hui, puisqu'il a cessé de nous menacer, ce monde, et qu'il demande au contraire notre protection, voilà, il a changé aussi de physionomie. Il a perdu son pouvoir contraignant, et qu'est-ce qu'il est devenu finalement? Ben, c'est un espace scénique, un scénario, dans lequel nous pouvons projeter toutes sortes de fantasmes. Rien n'est interdit, si vous voulez. Alors, il suffit de penser qu'il y a tout juste un siècle, ceux qui s'aventuraient dans les bois étaient encore rares. Il y avait quelques bûcherons et des charbonniers, et il y avait des ermites, il y avait quelques marginaux, hein, et après, il y avait quelques excentriques d'origine anglo-saxonne, c'est-à-dire les Allemands et les Anglais qui ont inventé, si vous voulez, le tourisme, qui ont découvert... d'un côté les Alpes et de l'autre côté le littoral, tout en étant ébahi du niveau d'animalité et de bestialité des habitants autochtones. Alors, et après, bien sûr, il y avait les gens du club alpin et les chasseurs, notamment les chasseurs. Aujourd'hui, en revanche, on trouve un peu de tout. Des figures désormais classiques comme celle du sportif, du scout, du ramasseur de champignons, et aussi d'autres figures un peu plus insolites. Donc, il y a l'aventurier qui joue au survival, les sauveteurs d'espèces en danger, il y a le néo-chaman qui donne des cours de tambour chamanique, et il y a le néo-druide qui ramasse du gui. Hein. Donc, Après, il y a le guetteur d'ours avec sa caméra aux infrarouges. Il y a le moniteur nature avec ses élèves. Il y a le birdwatcher, l'aubergiste bio. Enfin, il y a plein de monde dans cette forêt. Et c'est dans ce contexte que nous assistons à la réhabilitation de la prédation. Et donc, là, je parle aussi bien des prédateurs au sens strict que des prédateurs au sens figuré. Alors, j'ai regardé, pour documenter un peu ce constat, mais c'est sous les yeux de tout le monde. Hein, donc, les indices de cet engouement, on les retrouve à tous les niveaux. Par exemple, sur le plan alimentaire, il faut savoir que les plats à base de gibier sont très à la mode. La vente de gibier dans les grandes surfaces a plus que doublé en quelques années. Et donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a aussi à la radio, à la télé, des programmes où il y a des gens qui revendiquent contre une certaine tendance au végétarianisme, qui existe aussi naturellement, revendiquent leur fierté, leur plaisir de manger de la viande, quoi, de la chair, comme ça, et donc des carnassiers. Et sur le plan de la mode, là aussi, il y a eu une époque qui a été celle de la mise au banc de la fourrure, hein. Et maintenant, la fourrure est de retour. Moi, je regarde toujours les magasins de ma femme en cachette et je vois que gens, elle et compagnie, et c'est vrai qu'on s'aperçoit, ça fait un moment que je les suis, et on voit très bien qu'il y a eu une époque dans laquelle on était complètement hostile à la fourrure. Et il y avait des gens comme Naomi Campbell, par exemple, qui faisaient toutes ces opérations de mise en enfin, spectacle de sa nudité pour attirer l'attention sur la fourrure qui était arrachée aux animaux. Et elle aussi, par exemple, maintenant, se représente en public avec des formidables fourrures, comme si le vent était en train de changer un petit peu. Et ça, donc, sur le plan alimentaire, sur le plan de la mode, mais sur le plan de la décoration d'intérieur, ça aussi, c'est épatant. Désormais, avec le prétexte, si vous voulez, du cabinet de curiosité, on met des animaux empaillés un peu partout. Et donc, voilà, là, le trophée, et on le retrouve un peu partout aussi, qu'il soit en plastique, mais pas seulement, même les vrais trophées sont réhabilités, si vous voulez. Et même dans le monde de l'art, c'est quelque chose qui, enfin, ceux qui connaissent cet univers l'auront sûrement remarqué. Les artistes qui travaillent sur des corps, sur d'animaux et sur des animaux empaillés sont assez fréquents, à tel point que je vous en donne une petite liste tout juste pour vous rafraîchir, parce qu'on a tendance à mettre un peu en doute parfois ces choses-là, mais je vous en dis quelques-uns, je ne sais pas. Karen Knorr, Gloria Friedman, Annette Messager, Maurizio Cattelan, Wim Delvoye, Damien Hirst, Anna Golaz, Pierre Abensur, Thomas Grünfeld. Enfin, de chacun d'entre eux, si je n'ai pas le temps, je peux vous décrire les œuvres parce que je viens de publier un petit texte dans la revue Terrain, justement consacré à ce phénomène. Et là, j'en dis 10, je pourrais en dire 50. C'est quelque chose de... Il y a eu deux expositions très importantes à Paris récemment, justement consacrées. Mais celle à la beauté animale, non, c'était un truc un peu, comment dire, plus bon enfant. On ne montrait pas ni mort, ni sexe, ni des choses comme ça. Mais les autres étaient absolument impressionnantes pour ce qui concerne justement cette mise en spectacle du cadavre de l'animal. Bon. Et après, pour ce regain d'intérêt, il y a aussi des journaux comme Le Monde, par exemple, ou La Repubblica en Italie, alors qui ont toujours stigmatisé la chasse, moins la corrida. Enfin, ça c'est intéressant, on ne peut pas en parler ici, mais Le Monde a toujours considéré la corrida comme quand même quelque chose d'artistique, Libération un peu moins, alors que La Repubblica en Italie, alors on voit très bien qu'il n'y a pas eu une tradition... pas de quel genre, mais finalement, eux, ils ont toujours stigmatisé les deux. Mais là, on voit réapparaître le langage qu'on utilisait dans le 19e siècle pour parler de l'art de la chasse, justement, qui était présenté comme une pratique, voilà, un art, tout simplement. Hein. Et après, j'ai plein d'autres faits divers, si vous voulez, symptomatiques dans ce sens. Par exemple, dans l'Afrique du Sud, on va délivrer, il y a peu de temps, un important prix international au portrait d'une jeune chasseresse à cheval qui ramène triomphante son antilope. Hein. Autrefois, des images comme ça auraient été considérées comme censurables. Donc, cet engouement. Alors, je dis ces choses-là, j'aimerais bien qu'on me dise que ce n'est pas vrai. Et Aubin a déjà dit que non, j'insiste trop sur des aspects marginaux. Pour moi, c'est un pari, si vous voulez, d'un certain point de vue. Donc, je pense que les ethnologues, parfois, perçoivent des tendances, c'est un peu leur métier. Donc, je vois arriver quelque chose qui peut-être est déjà là, peut-être que je me trompe complètement. Bon. Je continue un peu. J'ai déjà parlé une demi-heure, donc je finirai jamais mon truc, mais ce n'est pas grave. À un moment donné, je vais m'arrêter. Et donc, cet engouement pour le prédateur, donc, voilà, on voit qu'il apparaît un peu partout dans notre société. Mais il se prête naturellement à plein d'utopies différentes et contradictoires. Alors, donc, je pourrais citer. D'un côté, on pourrait les appeler des écotouristes qui passent leur nuit dans les ronces, dans l'espoir d'entendre le chant du loup ou le brame du cerf. C'est devenu une sorte de business, si vous voulez. Hein. Autrefois, on se déplaçait en car, en pèlerinage, pour les apparitions de la Sainte Vierge. Et aujourd'hui, on le fait pour rencontrer les descendants de Canel, sorte de désormais de personnage mythifié et dont la mort très médiatisée a été comparée à une sorte d'assassinat. Il y a aussi des mouvements plus singuliers, comme ces mouvements néo-païens qui s'identifient aux grands prédateurs. Donc, alors il y a des mouvements très extrémistes dans les deux sens. Hein. À l'extrême droite, je citerai par exemple un groupe qui s'appelle le groupe odiniste, qu'on retrouve en Italie. Ils sont les chevaliers du dieu Odin. Et eux, ils se prennent pour les héritiers des guerriers scandinaves qu'on appelait les berserkir. Et donc, les berserkir, je ne sais pas si vous les connaissez, ce sont des guerriers qui, dans les mythes du Grand Nord, revêtent les peaux des ours et des loups et ils deviennent l'ours et le loup. Ils retrouvent leur véritable identité, si vous voulez, et ils deviennent aussi des personnages habités par une férocité infernale, si vous voulez. Hein. Et donc, voilà, c'est à ce genre d'image du prédateur que se réclament les membres de cette secte odiniste. Hein. Je vais vous lire un passage pour vous montrer comment ça passe dans leur imaginaire. Il existe peut-être une particularité qui rend magique la communauté odiniste, le respect pour l'esprit animal qui se cache dans chacun d'entre nous. Voir, nous ne désirons pas être différents de ce que notre imprinting génétique nous impose, ce que les Allemands appellent Ahnenerbe, l'héritage ancestral. Il suffit de nous regarder dans les yeux pendant nos blottards pour comprendre que nous sommes l'essence et l'avant-garde d'un peuple. Donc on voit toutes les résonances, si vous voulez, irrationalistes qui peuvent se cacher dans cette identification au prédateur. Mais de l'autre côté, à l'autre extrême, on pourrait citer ces féministes américaines d'un mouvement qui s'appelle le mouvement Wicca, qui revendique un statut de sorcière. Et donc, ce sont des dames qui dansent dans la nuit en pleine forêt en imitant les cris des bêtes féroces. Alors, il s'agit aussi d'un mouvement néo-païen, mais libertaire et non violent. Je vais peut-être couper un peu cette citation. Il faut dire qu'elles aussi, elles produisent une lecture extrêmement idéologique de l'éthologie du comportement de ces animaux, justement pour le faire correspondre à leur conception de la féminilité. Hein. Donc, il y aurait une identification entre la femme et le loup. Enfin. Ce que ces enthousiastes de la prédation ont du mal à rencontrer dans leur déambulation nocturne, ce sont justement les fauves réels. Hein. ceux qui prolifèrent spontanément et qui jouent justement aujourd'hui sur la déprise agricole. Alors, la question que je me pose en tant qu'ethnographe et que je développe donc dans la partie suivante de ce travail est justement celle de la manière dans laquelle ces animaux sont perçus par la population locale, tout simplement. Et comment est-ce qu'on les définit. Il faut dire que dans les Alpes et aussi... Enfin, disons que ma recherche porte notamment dans la région alpine, ce retour des grands prédateurs dérange, hein, pour des raisons pratiques déjà. Parce que dans le Trentin au Adige, où j'ai mené mes enquêtes, ou en Vénétie, les spectacles des porcs et des ânes qui ont été éventrés par les ours, par exemple, n'encouragent pas du tout les autochtones à la promenade dominicale. Donc, c'est quelque chose. Mais en plus, lorsqu'on interroge les villageois sur ces animaux, qui sont des animaux qui ont des problèmes, on voit ressortir une donnée inattendue. Ce qui les dérange, c'est que ces animaux sont des animaux bizarres. Et alors, je cite là mes informateurs, qui dit par exemple, « Ce ne sont plus les ours d'autrefois. Ceux-ci s'approchent trop des maisons, ils rentrent dans le village, ils rentrent dans le cimetière. » Et les discours glissent facilement vers d'autres animaux sauvages qui ne savent pas rester à leur place. Par exemple, dans la presse, on retrouve énormément d'exemples de ce mélange des catégories. À Gênes, par exemple, les sangliers habitent en ville, stationnent dans le jardin de l'hôpital et mangent des spaghettis dans la main des riverains. À Berlin, ils se promènent la nuit dans l'Alexanderplatz. En Italie du Sud, il y a des hordes de chiens errants qui attendent les joggeurs, hein, dans le terrain vague, justement pour améliorer leur diète carnée, si vous voulez. Et après, et ce qui est le thème qui me paraît peut-être le plus intéressant par rapport à cette ethnographie du retour du prédateur, il y a ces histoires d'ours. Et les ours sont des personnages vraiment emblématiques, notamment parce que, comme l'a montré notre collègue Sophie Bobet, en raison de leur anthropomorphisme, ils permettent des projections très faciles. L'ours est par définition quelqu'un qui a un corps presque humain, un comportement presque humain. Il a sa femme, ses enfants, il s'accouple ventralement comme les humains. Enfin, ça fait partie de la croyance, mais qui part d'Aristote arrive jusqu'à nos jours. Donc, lorsqu'on le voit, on se dit, mais tiens, comment les animaux nous ressemblent énormément. Et donc, les ours donc, font rêver. Hein. Et vous savez que dans la mythologie grecque, c'était des animaux qui étaient considérés comme des psychopompes, c'est-à-dire qui aident le voyage des ânes. Hein. Et encore aujourd'hui, ils sont des passeurs de frontières. Donc... Alors, je vais vous citer ces ours qui ont défrayé la chronique en Italie. Je pourrais, par exemple, évoquer Jurka. Jurka, il a fallu l'interner, à un moment donné, dans un enclos pour ours à problème, on les appelait comme ça, parce qu'elle aimait trop la proximité du genre humain. En effet, elle avait pris l'habitude de rentrer dans les chalets et se faire donner des tartes et tout ce qu'elle pouvait obtenir. Hein. Et donc, à un moment donné, on a commencé à avoir peur, d'autant plus que son fils était passé à l'acte. Hein, et son fils s'appelait Bruno. Alors, il avait tué des brebis et même un yak. Un yak, peut-être pour des raisons écologiques, il a dit que ça nuisait à la biodiversité parce qu'il venait du Tibet. Il a été considéré comme dangereux. On a commencé à le suivre, et lui il s'est barré quand même. Il a été abattu plus tard en Basse-Bavière après une longue cavale, un peu si vous voulez à la Bonnie and Clyde. Et c'est vrai qu'en Allemagne immédiatement on l'a considéré comme un nuisible, une société peut-être plus agricole que la nôtre, et la loi leur permettait de l'éliminer. Je pourrais parler de Cléo et Cora, hein. Ils sont deux de Zoussonne aussi, enfermée elle aussi dans un enclos pour canassiers borderline. Alors, leur cas est un peu différent parce que on était très contents de les avoir reçus, mais à l'époque des amours, elles attiraient dans l'enceinte des mâles sauvages qui étaient tout à fait libres et concupiscents. Et donc, ça posait aussi des problèmes, même pour les enfants, le tourisme, etc. Donc, il a fallu alors les soumettre, elles, à l'ablation des ovaires. Et donc, à chaque fois, il y a une tentative, si vous voulez, brutale de domestication. Hein. Et après, l'histoire peut-être la plus exemplaire est celle de l'ours Dino. Alors, c'était un ours d'origine slovène qui était immigré en Italie en 2009. Comme dit la presse, il était immigré à la recherche d'une fiancée. Et alors, bon, alors, très médiatisé, il a fait même l'objet sur Internet d'un référendum pour lui trouver un nom. Et alors, on l'a appelé Dino. En souvenir de l'écrivain Dino Buzzati, qui était aussi de la région et qui avait écrit un récit qui s'appelle « La célèbre invasion des ours en Sicile ». Et donc, à Asiago, justement, tout près de Venise, et cet ours était devenu une figure emblématique. Hein, et on l'avait utilisé pour comme une mascotte pour illustrer les attraits touristiques de la vallée. Il s'avère que ce Dino, après son réveil de la léthargie hivernale, il avait changé complètement d'attitude. Et donc, il n'était plus un nounours débonnaire. Il a attaqué des ânes à la manière d'une sorte de serial killer. Hein. Il a tué 14 ânes en quelques jours et aussi un certain nombre de brebis, mais seulement les brebis qui avaient une clochette, pour des raisons qu'on a du mal à expliquer. Hein. Après, il disparaît et on le retrouve en Slovénie un peu plus tard, où il avait eu le bon sens de rentrer tout seul en anticipant une décision des autorités italiennes. Alors, pour des raisons inexplicables, il avait pris l'habitude de donner des coups de tête terribles contre les arbres et les maisons. Donc, on en a déduit qu'il était devenu fou, affecté peut-être par la rage. Et donc, on a décidé de l'abattre, encore une fois. On apprête un charnier pour l'attirer dans ce guet-apens. Et les charniers, il y a de la viande, mais il y a aussi du Nutella, qui, paraît-il, pour les ours, marche très, très bien. Alors, ce dispositif a fonctionné. Et sous le contrôle des agents forestiers, un chasseur a tué cette pauvre ours, ou l'a euthanasié, comme dit la presse locale. Hein. Donc, et alors, après, on a approché de la dépouille de Dino et on s'est aperçu qu'il n'était pas fou du tout. Il gesticulait comme un possédé, justement, mais pourquoi? Parce qu'il cherchait à se débarrasser du collier qui était devenu trop étroit et qui, et depuis quelque temps, lui serrait le cou. Donc, ça a été quand même quelque chose qui a choqué l'opinion publique. Et après, bon, je continue encore un petit instant tout juste pour vous montrer la quantité de phénomènes de cette, comment dire, migration du sauvage vers le domestique qui est justement quelque chose de très présent dans la presse. Deux, trois exemples. À Fouard, près de Nancy, un sanglier pénètre dans une grande surface. Il charge les clients du rayon liquide avant de bifurquer vers le salon de coiffure, où il terrorise les visagistes. Là aussi, il est maîtrisé par un vétérinaire muni d'une seringue hypodermique. Ça fait penser vraiment au chasseur du petit chaperon rouge et euthanasié un peu plus tard. À Cajac, dans le Lot, deux chevreuils chargent un chasseur, c'est le monde à l'envers typique de la littérature du Moyen-Âge, et lui casse le fémur. À Prémontré, dans l'Aisne, les chasseurs de l'association Rally Nomade poursuivent un cerf et lui donnent le coup de grâce sous les yeux des patients d'un hôpital psychiatrique dans un jardin privé situé dans une rue, etc. Donc, enfin, dans cette ambiance qui est vraiment une ambiance d'incertitude, hein, tout devient menaçant. Un habitant d'un village qui s'appelle Castellavazzo en Italie vient d'être condamné parce que il craignait de rencontrer l'ours et donc il rôdait dans les parages. Et donc il s'était mis à ramasser des champignons, mais armé d'un revolver. Hein. Donc il a perdu le revolver, il a dû dénoncer la disparition, et on l'a chopé comme ça. Et donc, alors, pour revenir à des réflexions un peu plus anthropologiques vers la fin, là. Oui, j'ai presque terminé. Hein. Donc, ce qui angoisse les ruraux est bien sûr l'animal sauvage qui remet en cause un système technique et plus largement un ordre du monde qui avait été bien organisé avant, justement pendant des décennies, des centaines d'années, je veux dire. Mais ce qui dérange encore plus, c'est le mélange des catégories. Et donc, c'est l'apparition d'animaux hybrides qui ne sont plus ni domestiques ni sauvages. Et c'est un peu comme le problème du sanglier corse. On sait qu'ils sont mélangés avec des cochons domestiques. Et donc, on approche, après, on s'appelle. Et lui, il pense être un cochon pendant très longtemps. Et après, lorsqu'on est très près, il se rend compte qu'il est un sanglier et il attaque. Et donc, ça devient particulièrement dangereux. Donc. Donc, dans ce sens, les ruraux d'aujourd'hui ne sont pas très différents de leurs prédécesseurs. Alors, j'avais cité Trinquier, et je vais citer maintenant un texte classique d'anthropologie ou d'histoire du rapport à l'animal de Kate Thomas, qui s'appelle « Dans les jardins de la nature ». Et qui parle justement de la sensibilité des populations rurales vis-à-vis de ces phénomènes d'irruption du domestique dans le sauvage, du sauvage dans le domestique. Il semble bien que la raison pour laquelle de nombreux événements naturels étaient considérés comme de mauvais augures est qu'il semblait brouiller ces catégories de sauvages et de domestiques autour desquelles gravitait une si grande partie de la pensée populaire. Il était toujours inquiétant de voir des créatures sauvages empiéter sur le domaine des hommes. Si une ville était subitement infestée de geais et de hiboux, par exemple, ou si une abeille sauvage entrait en volant dans une maison, ou si une troupe de requins accompagnait un navire, ou si un corbeau faisait son nid sous le clocher d'une église, ou si une corneille descendait par la cheminée, ou si une souris courait sur vos pieds, ou si un rouge-gorge tapait à la fenêtre, ces derniers événements étant une forme notoire d'appel qui, même à l'époque victorienne, faisait se mettre au lit des hommes en pleine santé. Donc voilà. Et Kate Thomas montre très bien donc, cette peur des mélanges. Et d'ailleurs, il cite, lui, il fait les mêmes références que Trinquier. Et il faut dire que dans les deux cas, on peut penser aussi aux travaux d'une autre anthropologue très, très célèbre, Mary Douglas, qui a travaillé sur la notion de pur et de impur. Et elle nous dit, ce qui est considéré comme justement pur ou impur change d'une société à l'autre. Mais dans tous les cas, il s'agit de quelque chose qui correspond à une remise en cause de l'ordre. De l'ordre culturel, de l'ordre de la société. Donc, c'est lorsque deux choses ne sont pas à leur place qu'on a ce sentiment de saleté, d'impureté et de danger. Et donc, je vais encore vous prendre 5 minutes et après j'aurai fini. Donc, or, justement, avec l'émergence de la pensée écologiste, alors, ça va justement nous permettre de terminer avec quelques mots sur la chasse, encore une fois. Il faut savoir que dans les sociétés traditionnelles, donc, comme on l'a dit, la chasse était l'activité pratique et symbolique qui préservait la frontière entre le domestique et le sauvage. C'est-à-dire, justement, l'animal était chassé à l'extérieur, si vous voulez. Et donc, dans ce sens, la chasse assurait, pour ainsi dire, la sauvagerie de l'animal. Par son action, le chasseur repoussait le fauve au-delà de cette frontière. Et comme je viens de le dire, il le chassait, mais comme on dit que l'on chasse quelqu'un hein, de l'univers domestique. Or, les hybridations de plus en plus fréquentes de ces deux mondes, que pendant très longtemps nous avons cherché à séparer, sont perçues comme des présages, hein, des signes avant-coureurs du monde à venir. C'est ça qui les rend inquiétants. Alors, mais pas pour tout le monde, parce que pour une partie de la population, disons pour la frange urbaine, qui est sensible au grand thème de la biodiversité, du développement durable, etc., et ce sont des présages positifs. C'est la réalisation de la prophétie biblique, le loup habitera avec l'agneau. Pour les rurons, en revanche, ces mêmes présages sont le signe avant-coureur d'une sorte d'apocalypse imminente. C'est justement l'apocalypse de la civilisation rurale qui est en train d'imploser. Voilà, je m'arrête là parce que sinon ça irait trop loin. Mais je suis tout à fait d'accord pour discuter un peu avec vous des thèmes que j'ai présentés.
Bien, merci Sergio pour ce petit tour que tu nous proposes dans la sauvagerie, dans différentes formes de sauvagerie. Je vais passer la parole directement à la salle.